C'est un triste mois de mai pour la littérature américaine. Elle a vu s'éteindre deux de ses grands noms. Le 14 mai dernier, Tom Wolfe, père du nouveau journalisme. Dandy affirmé, il est mort à New York à l'âge de 88 ans. Moins de deux semaines après, le 22 mai, c'était au tour de l'écrivain Philip Roth de disparaître. Lui aussi à New York à l'âge de 85 ans. Leur hommage, on va évoquer ce matin l'histoire de la littérature américaine. Qu'est-ce que ces deux géants ont apporté aux lettres anglo-saxonne, mais aussi à la littérature mondiale. Et pour en parler, nous recevons l'écrivain et journaliste Marc Weitzman. Bonjour, vous êtes notamment l'auteur d'Une place dans le monde aux éditions Stock, d'Une matière inflammable et d'Un temps pour haïr qui sortira cet automne chez Grasset. Et à vos côtés, Olivier Cohen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur et fondateur de la maison d'édition L'Olivier. On va tout d'abord entendre la voix de Philip Roth. C'était en 1992 dans Carnet de route, l'émission de François Bunel.
C'est étrange quand on est écrivain à New York. Le matin, tout le monde part travailler et vous restez seul dans votre immeuble. Vous ne sortez pas dans la rue pour rejoindre un bureau, une institution, une université, rien. Vous êtes assis dans votre bureau et vous écrivez. Dans ces moments-là, je me sens exclu de la ville. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, à écrire dans cette boîte ?
Une réaction, Marc Weitzman, à la voix de Philip Roth que vous avez bien connu, que vous avez interviewé notamment pour le journal Le Monde, lorsqu'il expliquait donc en quoi consistait son métier d'écrivain.
Une réaction à
ce qu'il vient de dire.
Je sais pas ce qu'il vient de dire. C'est très émouvant de l'entendre maintenant. Effectivement, oui, je l'ai bien connu. Donc je suis très triste de ce qui se passe. Je pense qu'il a c'est une grande perte, pas seulement pour je pense que c'est une grande perte pour tous les écrivains en fait, parce qu'il était ses livres restent. Il était une sorte de c'était un peu le commandant en chef de la littérature pour tous ceux pour qui la littérature est importante, quoi. Il représentait une espèce d'éthique littéraire qui a virtuellement disparu. En tout cas, c'était la dernière génération. Il était le dernier représentant d'une génération pour qui la littérature était vraiment une espèce de devoir sacré presque. Il y avait un côté monacal dans la manière dont il travaillait, et ça s'accompagnait aussi de quelque chose de très vivant. Il était très tout le monde le dit, mais c'est vrai, très très drôle, c'était très agréable d'être en sa compagnie. Et je pense que sa perte signifie quelque chose de plus important que la simple mort d'un homme. Ça représente vraiment la fin d'un âge où la littérature et la liberté, une liberté de création totale, d'audace et d'absence de peur, hein, de choquer. Ce monde-là est en train de disparaître. En tout cas, il est attaqué de toutes parts, que ce soit par les gens, par le climat de moralisme à gauche ou par la vulgarité de la droite politique et littéraire. Avec Roth, c'est quelque chose de c'est un monde où la littérature représentait pas seulement la culture, mais une exigence de liberté individuelle.
Qu'est-ce que ça veut dire justement pour vous, Marc Weitzman, éthique de la littérature?
C'est un peu ce que je viens de dire. L'audace de ne se laisser arrêter par rien, sinon par ses propres limites, c'est tout.
Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que cela signifie ne rien placer au-dessus de la littérature, en tout cas lorsqu'on écrit ?
Non, c'est pas la littérature, c'est la vie. C'est-à-dire que ne se laisser arrêter par rien, c'est-à-dire ne se laisser arrêter par aucun tabou, par aucun moralisme, par aucun tout faire pour rendre la vie intéressante et lutter contre l'ennui, quoi.
Olivier Cohen, vous qui connaissez bien la littérature américaine, la place de Philip Roth dans la littérature américaine et les raisons pour lesquelles cet homme aujourd'hui est considéré comme étant le géant, sinon l'un des géants en tout cas de la littérature américaine et mondiale.
D'abord, je voulais dire un mot sur ce qu'on vient d'entendre, ce que Philip Roth vient, vient de dire, si je puis dire, parce que ça va complètement à l'encontre des clichés très répandus sur la littérature américaine, selon laquelle les écrivains américains seraient des baroudeurs qui passent leur temps dans le feu de l'action, qui ont fait 1000 métiers, qui ont roulé leur bosse. Mm-hmm. C'est-à-dire, d'ailleurs, on peut se demander si c'était le cas, quand est-ce qu'ils écrivent. Et Philip Roth, c'était exactement le contraire, puisque, comme vient de le dire Mark Weitzman, on sait qu'il consacrait la plupart de son temps à écrire. Sinon, il n'aurait jamais écrit la trentaine de livres qu'il a écrits. Et par rapport à ce mot d'éthique de la littérature, moi, je lirais les deux choses. C'est-à-dire que il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans ce film de François Bunel dont vous parliez, ce documentaire, c'est qu'à un moment donné, on lui demande, mais finalement, quelle est la responsabilité de l'écrivain? Est-ce que l'écrivain doit être engagé? Question qui est un peu la tarte à la crème en France, quand on parle des écrivains. Et Roth répond non, qu'il n'est pas engagé, ou peut-être le seul engagement qui compte pour lui, c'est d'écrire le mieux possible. Et pour répondre en partie à votre question, je pense que Roth était l'écrivain qui écrivait le mieux possible. Mmh. Il avait à la fois une énergie folle, un talent énorme, mais une obstination, une patience incroyable, sans lesquelles jamais il n'aurait pu écrire ces livres qui demeureront après lui.
Oui. Tout à fait.
Mark Weitzman.
Oui, c'est vrai. Il y avait chez lui, il y avait une l'éthique de la littérature, ça veut dire en fait l'éthique du travail, quoi. Et effectivement, Roth était capable de passer des heures et des jours et des mois à travailler jusqu'à obtenir exactement ce qu'il avait en tête, ou à laisser tomber s'il n'obtenait pas ce qu'il avait en tête, et puis à laisser reposer le manuscrit des mois, des années. Et à faire autre chose. C'était une éthique du travail, voilà. C'est ce que vient de dire Olivier Cohen, c'était son seul engagement réel.
Avec moi, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris, Olivier Cohen, le fait que cet homme qui n'avait été qu'écrivain dans sa vie, c'était son métier, sa profession, sa passion, il vivait pour cela, a décidé un jour d'arrêter d'écrire. J'ai cherché, j'ai trouvé peu d'exemples d'écrivains qui ont décidé d'arrêter d'écrire, non pas qui ont cessé de réussir à écrire. On sait très bien qu'il y a des romanciers qui traînent comme ça des romans, mais une décision comme celle-ci, avez-vous d'autres exemples? Avez-vous des explications?
Moi, je crois que c'est impossible d'expliquer une telle attitude. Lui seul aurait pu vous répondre, et sans doute il s'en serait sorti par une pirouette. Mais je pense à des conversations avec des écrivains qui avaient à peu près son âge, que j'ai publiées, et qui sont morts il y a relativement peu de temps. Je pense par exemple à James Salter et à quelqu'un que Philip Roth aimait beaucoup, Aaron Appelfeld, et tous deux qui étaient, ils avaient tous les deux à peu près 85, 90 ans. Et donc quand je demandais à James Salter, alors Jim, votre prochain roman, et il me répondait, j'ai plus la force de passer des heures comme ça, pas la capacité de me concentrer. Donc, il m'avait dit, je n'écrirai plus de romans. Il n'avait pas dit, je n'écrirai plus d'essais ou de souvenirs. Mais c'était la fiction qu'il considérait comme plus possible pour lui.
Oui,
Mark Weitzman.
Roth était un romancier, donc c'était effectivement son travail, c'était la fiction. Et la fiction demande un engagement, un investissement, une capacité à la projection particulière. Moi, je l'ai vu à l'époque où il essayait d'écrire, parce que la raison essentielle, c'est qu'il ne voulait pas, ça a à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'exigence de travail, il ne voulait pas faire de livres faibles. Donc quand il a senti que il a voulu arrêter avant que ses pouvoirs ne déclinent, si vous voulez, tout simplement.
Olivier Cohen.
Et d'ailleurs, quand on lit ses derniers livres, et en particulier le tout dernier, on est absolument stupéfait d'admiration.
Oui. Pourquoi ? Expliquez-nous.
Pourquoi ? C'est d'une telle intensité... C'est très court, mais c'est d'une telle intensité, d'une telle force, d'une telle lucidité. On se demande même comment c'est possible d'écrire des choses pareilles, surtout à cet âge-là. On dirait un jeune auteur, plein d'énergie, et en même temps avec l'expérience, la mélancolie, l'ironie qu'on n'a pas quand on est très jeune. C'est quelque chose de prodigieux. Et on peut comprendre que, après avoir écrit un tel livre, un écrivain décide de tirer sa révérence.
Philip Roth a été devenu extraordinairement célèbre avec Portnoy et son complexe, un livre donc qu'il a publié en 1969. Peut-être un livre que l'on peut résumer, Mark Weitzman, si nos auditeurs n'ont pas eu la chance encore de le lire.
Bah, c'est l'histoire du Raskolnikov de la masturbation, comme il disait. Raskolnikov, c'est le personnage de Crime et Châtiment. Et voilà, c'est quelqu'un qui passe son temps à se masturber frénétiquement. Mais c'est un livre essentiellement sur la brutalité, en réalité. C'est une comédie, c'est très drôle. C'est aussi pas son meilleur. Hein. Moi, j'ai jamais réussi à le définir complètement.
Ah oui, pourquoi vous trouvez que ce n'est pas son meilleur?
Parce que c'est très drôle, mais au bout d'un moment, c'est répétitif. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit que j'avais jamais réussi à finir le livre, et il m'a répondu moi non plus. parce qu'il considérait lui-même que c'était pas son meilleur livre. Mais c'est effectivement celui qui l'a rendu très célèbre.
C'était un livre qui passait pour scandaleux parce que extrêmement cru, parce que également extrêmement scandaleux du point de vue donc de cet homme juif qui raconte son rapport avec les non-juives, là aussi avec cette obsession de la sexualité.
C'est ce qui reste en réalité du livre, c'est surtout le rapport que le narrateur, enfin c'est pas, je sais même plus si c'est raconté la première personne. Que le narrateur a avec sa famille en réalité. C'est les passages les plus intéressants, c'est tout le début, et c'est un livre sur la brutalité des relations familiales. Et sur le fond, c'est un livre sur un thème qui revient dans toute son œuvre, qui est que l'un des points centraux du personnage, c'est pas tellement qu'il est juif, c'est qu'il est adjoint à la mairie de New York au droit civique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'essentiellement engagé, c'est quelqu'un de vertueux, qui est travaillé par une pulsion incontrôlable qu'il fait se masturber dans les endroits les plus aberrants. Et il n'arrive pas du tout à réconcilier la pulsion de son énergie sexuelle avec son idéal de vertu politique. Et c'est un des thèmes qui revient constamment dans les livres de Roth, de manière beaucoup plus développée dans d'autres, et beaucoup plus forte à mon avis dans d'autres bouquins comme Le Théâtre de Sabbat. Voilà.
Enfin, si vous me permettez une confession personnelle, il y a encore peu de temps, j'entendais des gens s'engueuler sur ce livre, tout simplement parce qu'ils considéraient, par exemple, que tout ce qui était dit sur la sexualité des juifs, leur rapport aux non-juifs, tout ça était encore scandaleux. Ce qui veut dire que des années... Ah, je vous assure que je l'ai entendu encore récemment, vous pouvez me croire, Olivier Cohen.
Alors, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, mais en écoutant Mark Weitzman... Subitement, je me suis dit, mais supposons que Kafka ait vécu aux États-Unis à la même période, eh bien, il aurait pu écrire ce livre.
Oui, absolument.
Parce que, d'abord, sur la famille, si vous prenez La Métamorphose, qui était le seul texte, le seul roman que Kafka ait publié de son vivant, et qui l'a rendu célèbre, La Métamorphose, c'est l'histoire d'une famille. Kafka avait même dit que c'était un livre indiscret, parce que c'était ça le sujet, c'était l'indiscrétion, parce qu'il faisait entrer le lecteur dans un lieu où il n'a pas à être. C'est le problème de la curiosité, être curieux de comment les autres vivent. Et l'obsession du sexe et de la masturbation dans le livre de Roth, c'est celle de son personnage, mais c'est pas celle de Roth, hein, c'est celle de son personnage.
Souvent il a été confondu.
Ah oui, mais à tort. Et le sexe, c'est toujours, chez Roth, je crois, un moyen d'analyser les rapports entre les êtres.
D'aller là où personne ne veut aller, d'aller dans les coins où personne ne veut aller. Il y a le sexe et il y a la colère. Les personnages de Roth sont souvent très, très énervés. Enfin, il y a toujours un moment donné où ils se mettent très en colère, très souvent en tout cas. Et effectivement, je voulais revenir sur le lien avec Kafka, parce qu'effectivement, Roth a été... Kafka est un des écrivains tutélaires de Roth. Hein. Il est allé très souvent en Tchécoslovaquie, à Prague. Et il avait un lien avec Kafka qui était, il avait une photo de Kafka sur son bureau, hein, constamment. Et je crois qu'effectivement, il a écrit un texte sur Kafka dont le titre m'échappe là, mais qui est remarquable, où il commence par analyser Kafka, et puis qui est un texte d'analyse littéraire, et qui se transforme en fiction soudainement, où il imagine Kafka venir pratiquement anonymement, n'ayant rien publié puisqu'il a vécu, et devenir un petit prof d'hébreu, je crois, ou de yiddish, je ne sais plus, dans le livre, dans la nouvelle, à Newark, anonyme. Et il est moqué par Philippe Roth, qui a 10 ans, et lui et ses amis se moquent de lui. C'est un des points aussi qui revient souvent dans l'œuvre de Roth, que c'est ce rapport au fantôme, c'est-à-dire les écrivains, les personnalités des écrivains d'Europe, les écrivains juifs d'Europe, qui sont en quelque sorte, qui renaissent aux États-Unis sous une forme différente. Il y a Anne Frank dans L'écrivain fantôme, il y a Kafka dans cette nouvelle. C'est quelque chose aussi.
Pourquoi ce thème, selon vous?
Parce que l'Amérique représente le lieu où la catastrophe n'est pas arrivée. Il a écrit un de ses meilleurs livres qui s'appelle La Contre-vie, dans lequel et La Contre-vie, c'était ça. Il y a d'un côté l'Amérique et de l'autre côté il y a l'Europe de l'Est et puis Israël. Et c'est-à-dire d'un côté ça s'inscrit vers le milieu des, c'est un écrivain de la deuxième moitié du XXe siècle, hein, c'est-à-dire un moment où l'Amérique est à son plus haut niveau de puissance et de réussite, et où l'Europe se remet plus ou moins de la première moitié du XXe siècle, et où les fantômes sont encore très présents, les fantômes de la Shoah. Et l'Amérique représente pour les Juifs certainement le lieu où la normalité est possible, où le désastre n'est pas arrivé. Et ce privilège d'être un juif américain est quelque chose dont Roth était extrêmement conscient et qui revient dans beaucoup de ses livres.
Marc Weitzman, Olivier Cohen, on vous retrouve dans quelques instants.